Bienvenue dans la clé de la voix. Ensemble, partons à la rencontre d'artistes et de professionnels de la voix pour découvrir leurs astuces et vous aider à développer votre propre voix. Je suis Clémentine Coppolaigne, la créatrice de ce podcast. Je suis chanteuse, mais aussi coach vocal et formatrice. La clé de la voix est en association avec la maison de la voix. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Pour le soutenir, mettez un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Je remercie ceux qui prennent le temps de le faire, mais aussi ceux qui partagent ou qui parlent du podcast. Ça m'aide beaucoup à le faire découvrir. Je vous propose des exercices gratuits à télécharger, le lien est en barre d'infos ou sur laclédelavoix.com/3superexercices pour apprendre à maîtriser sa voix. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un don dans le lien disponible dans la description du podcast. Pour toute demande de sponsor ou de collaboration, vous pouvez me contacter par mail laclédelavoix@gmail.com. Bonjour à toutes et à tous. La prochaine conférence que je co-organise avec l'équipe de la Maison de la Voix aura pour thème « Comment choisir son professeur et chanter ses mots » par Lucas Fanchon. Elle aura lieu en ligne jeudi 17 mars à 20h. Maintenant, place au podcast. Mon invité forme les chanteurs depuis plus de 20 ans à une approche globale du geste vocal au sein de son centre de formation « Chant, voix et corps ». Emmanuel Trinquès a à cœur d'aider les professeurs de chant à développer leurs compétences ainsi qu'à renforcer leur sentiment de légitimité. Comme vous allez l'entendre dans son portrait chinois, Emmanuel est passionné par les incroyables possibilités qu'offre la voix humaine. Elle nous parle de son désir d'apprendre continuellement, ce qui lui permet d'innover et de créer des exercices précis issus de la kinésithérapie, de la préparation mentale ou venus du théâtre. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Clémentine.
Je suis ravie de ta présence aujourd'hui.
Et bien moi aussi, écoute, je suis vraiment ravie d'être en ta compagnie. Merci pour l'invitation.
Merci à toi. J'ai fait des recherches pour préparer les questions. Mm-hmm. Et en regardant les formations réalisées, j'ai vu ton parcours qui est extrêmement dense et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'Emmanuel n'a pas encore fait comme formation?
Non, non, il y a plein de choses que j'ai encore à découvrir.
Même si de nos jours, on se forme de plus en plus, on est conscient de nos droits à la formation, puis à Internet qui facilite les choses avec les formations à distance ou le e-learning. Après, c'est un état d'esprit, évidemment, mais je me demandais si c'était pas en lien avec ta profession initiale de kinésithérapeute, puisque je travaille depuis plusieurs années avec Fabienne Poulet-Schneider, qui est une kiné des chanteurs et des musiciens. Oui. Et dans le podcast, j'ai eu Sophie Hieronymus, qui est une psychomotricienne spécialisée sur la voix. Et toutes les deux, comme toi, elles ont cette base médicale et elles se forment continuellement depuis plus de 20 ans. Et je me demandais si cette curiosité, elle n'était pas un peu spécifique aux personnes comme toi qui viennent du médical. Chez les kinés, les formations, les spécialisations, c'est quelque chose de très présent et peut-être que toi, tu l'as transposé très tôt dans tout ce qui te passionnait.
Ah, écoute, c'est une très bonne question. J'avais jamais fait le lien, effectivement, entre cette soif de continuer à apprendre continuellement. J'adore apprendre, hein, vraiment, tous les jours. Peu avoir le temps d'apprendre, j'en suis ravie. J'avais vraiment jamais fait le lien. Est-ce que c'est lié au métier de kiné? Et écoute, c'est tout à fait possible, hein. C'est vrai qu'en kiné, on a pas mal de formations professionnelles continues et on continue à se former tout au long de la vie. Après, je crois sincèrement que ça remonte à bien plus loin. Je crois que j'ai toujours eu cette curiosité. J'ai adoré et j'adore encore traîner dans les bibliothèques. C'est vraiment un de mes endroits favoris. Quand je vais dans une nouvelle ville, j'adore aller voir la bibliothèque. Je ne sais pas, ça me nourrit. Et j'adore ça vraiment tous les jours ou presque. J'aime commencer ma journée par apprendre de nouvelles choses. Soit lire, soit suivre une formation, soit moi écrire aussi autour de ce que j'ai appris parce que ça rebrasse les connaissances et ça fait émerger de nouvelles envies. Donc je crois que c'est encore plus lointain que le fait d'être kiné, mais effectivement, le métier de kiné a dû aussi stimuler ça. Voilà. Et pour la petite histoire, j'ai commencé à gagner mes premiers sous d'argent de poche pour aller m'acheter des chaussons aux pommes à la boulangerie juste à côté du collège en donnant des cours, voilà, des cours de maths à l'époque.
Donc c'était déjà là, un don pour la pédagogie.
Oui, clairement. Apprendre et transmettre, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Quand j'apprends quelque chose de nouveau, j'ai qu'une envie, c'est de le transmettre, c'est de le faire découvrir à quelqu'un d'autre, pour que cet enthousiasme de la découverte puisse éclore, on peut dire ça comme ça, chez quelqu'un d'autre. Et pareil, quand j'enseigne, J'apprends. On dit que enseigner, c'est apprendre deux fois plus.
Oui.
Et mais c'est tellement vrai. J'ai tellement appris grâce à mes élèves, grâce à mes étudiants. Enfin, c'est incroyable. Donc, c'est vraiment une boucle. J'apprends, je transmets et je réapprends et je retransmets. Et en plus, c'est passionnant et ça peut durer toute la vie.
Oui, puisque les sujets sont infinis.
Exactement.
On a évoqué ta première formation en tant que kinésithérapeute. Mm-hmm. Donc, si tu es d'accord, nous allons démarrer par un portrait chinois pour te découvrir à travers la voix, le corps et bien d'autres choses encore.
Avec plaisir, allez, c'est parti.
Pour démarrer ce portrait chinois, si tu étais un exercice ou une proposition issue des thérapies manuelles appliquées à la voix, que serais-tu ?
On va parler d'exploration, je pense, le terme est bien approprié. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir en choisir qu'un, mais clairement, ce serait des explorations qui permettent de sentir des choses, de se poser des questions sur comment fonctionne notre corps. Pour en citer une en particulier, je crois que je me situerais autour de tout ce qui est mobilité, étirement de la zone laryngée, puisque pour la voix, vraiment, ça apporte des résultats immédiats. Et même en dehors de la voix, ça apporte des résultats de mieux-être, on se sent beaucoup plus libre, beaucoup plus léger, si on peut dire ça comme ça. Donc je voterais pour des explorations de mise en mouvement et d'étirement, même si j'aime pas beaucoup beaucoup ce terme, d'étirement de la zone laryngée.
Oui, est-ce que tu voudrais bien nous en dire un petit peu plus ?
Déjà, la première chose en thérapie manuelle, vraiment la première chose qu'on fait, surtout quand on parle d'autothérapie manuelle, c'est de venir en contact avec la zone intéressée. Par exemple ici, la zone laryngée, donc le cou. Il y a plein de personnes, chanteurs ou non, qui n'ont jamais pris contact avec cette zone, qui ne sont jamais venues explorer, toucher cette zone. Même pour certaines personnes, ça peut être dérangeant. Donc la première chose, évidemment, il faut en avoir envie, il faut se laisser aller par les sensations, mais ce serait peut-être simplement de venir poser les mains délicatement sur le cou, d'explorer cette zone, de faire un petit son, de voir comment ça vibre sous les doigts. Et c'est vraiment juste poser, toucher, effleurer. Et puis, gentiment, délicatement, venir décoller un petit peu la peau autour de cette zone. Pareil, avec beaucoup de délicatesse et de douceur. Peut-être en faisant des très légers mouvements de la tête pour apporter de la mobilité. Voilà, ce serait venir en contact très délicatement pour inviter à la détente, pour inviter à sentir davantage cette zone, pour pouvoir la réinvestir plus facilement et plus sereinement.
Tu es relaxologue, spécialiste de la gestion du trac et des émotions. C'est bien pratique lorsqu'on va sur scène et que l'on souhaite accompagner des personnes qui vont s'y produire pour un concert ou pour passer un examen. Si tu étais un exercice de préparation mentale, de gestion du stress, lequel serais-tu ?
Alors effectivement, j'ai fait cette formation de relaxologue, de préparation mentale, pour accompagner les chanteurs, parce que tu peux avoir une super technique vocale, en cours ça peut super bien se passer, et effectivement, comme tu le soulignes, une fois arrivé sur scène, le trac peut prendre le dessus, et apprivoiser ce trac, c'est essentiel. Alors si j'étais, pareil, une exploration sur la gestion du trac, je dirais quand même la visualisation. S'imaginer, après la représentation ou après la prise de parole en public, et tout s'est bien passé. Tout s'est merveilleusement bien passé. Et décrire ce qu'on ressent à ce moment-là. Comment on se sent physiquement, et puis bien sûr émotionnellement. On est heureux, on se sent léger, on se sent enthousiaste. Et puis décrire vraiment la manière dont on se sent en utilisant le présent. Pas « je me sentirais », mais « je me sens », et puis en impliquant les cinq sens. Je me sens heureuse, je me sens enthousiaste, je me sens soulagée, je me sens légère, et puis décrire dans quel environnement on est. Je suis dans une pièce lumineuse, j'entends encore les applaudissements du public, le guitariste vient me poser la main sur l'épaule et me sourit. Je sens la chaleur de sa main. Enfin, vraiment essayer de décrire exactement la situation qu'on a envie de vivre juste après cette représentation ou cette prise de parole en public. Et puis vraiment prendre le temps de le décrire. Alors, on peut le faire oralement, comme ça, si on se sent. On peut le faire dans sa tête, hein, évidemment. Et puis, dans un premier temps, le mieux, c'est encore de prendre 5-10 minutes, de prendre un papier, un crayon, un petit carnet, et puis de vraiment écrire comme si c'était une histoire. Parce que quand on raconte une histoire au cerveau, eh ben, il a l'impression de réellement vivre la situation. Et ça nous aide énormément, non pas à ne plus avoir le trac, mais à avoir moins le trac, ou en tout cas, d'avoir envie d'y aller pour vivre justement la situation qu'on s'est imaginée. Et faire ça un peu tous les jours, 10 jours, 15 jours, avant cet événement, même une fois ou deux juste avant, ben ça peut vraiment beaucoup, beaucoup aider.
Oui, moi c'est vrai que j'ai eu une formation un peu similaire, ça a été en tant que sophrologue, pour pouvoir mieux accompagner, et puis aussi pour moi, puisque j'étais quand même très sujette au trac, et je faisais la même chose hein, d'écrire en incluant les 5 sens, et après ce qui fonctionnait bien sur moi, c'était de m'enregistrer, de lire, et de l'écouter tous les jours. Après ça dépend des gens, moi je sais que je suis très auditive, donc forcément l'audio fonctionne bien.
Oui, excellent, excellent, oui ça complète très très bien. De s'enregistrer, de s'écouter ou de se relire. Si on a fait 10 petits paragraphes, de se relire le matin ou juste avant de monter sur scène, ça aide énormément. Ouais.
Tu as collaboré avec plusieurs orthophonistes. Si tu étais un exercice de rééducation vocale.
Ah, alors si j'étais une exploration, un exercice de rééducation vocale, bah, les semi-occlusifs, forcément. Je trouve ça absolument merveilleux. Et puis on va citer la paille. Alors moi, j'aime la pratiquer dans l'eau, donc j'appelle la paille dans l'eau, j'appelle les bubules, bubble. J'aime bien donner des petits noms un petit peu fun, un petit peu léger aux explorations pour leur donner un côté peut-être plus ludique. Et justement, les bulles dans l'eau, en faisant du son, c'est à la fois extrêmement ludique et extrêmement efficace pour la rééducation et puis en pédagogie vocale, pour l'échauffement, pour équilibrer les différentes sphères du geste vocal ou encore pour la récupération vocale. Donc je vote pour les bubules.
Très bien. Tu t'es également intéressée à la méthode Feldenkrais, si tu étais une approche corporelle issue de cette méthode.
Ah, alors je me suis intéressée à Feldenkrais, effectivement. Après, j'ai fait beaucoup, beaucoup de formations corporelles en général. Alors je ne saurais plus dire qui appartient à quelle méthode. Et j'aime plus parler d'approche corporelle globale, qui appartient à Feldenkrais ou pas. Je pense que je vais citer la proprioception, c'est-à-dire l'éveil aux sensations corporelles, sentir ce qui se passe dans le corps. Je trouve que vraiment se connecter à ces sensations corporelles, ça aide énormément, à la fois pour se sentir mieux, et puis pour guider, si on peut dire, le geste vocal. C'est un peu comme un GPS. Les sensations, elles nous disent où on est, et quel chemin prendre pour aller à un autre endroit.
Oui. Si tu étais un conseil que tu as reçu et qui a résonné en toi.
C'est un conseil récent que j'ai reçu et pourtant que je connais par cœur, que pourtant j'avais vraiment besoin d'entendre de nouveau, c'est de ne jamais, jamais cesser de s'amuser et de prendre la pratique vocale ou les apprentissages comme un grand terrain de jeu et de garder cet esprit d'enfant, cet enthousiasme de découverte, de ne pas chercher à bien faire, mais juste chercher à s'amuser et à explorer.
Si tu étais un accessoire, un objet que tu aimes utiliser dans la préparation à l'acte chanté ou pendant le travail de la voix.
Bah, j'ai cité la paille tout à l'heure, donc j'aurais tendance à dire la paille. Alors qu'est-ce que je pourrais utiliser d'autre? Un accessoire? J'aurais tendance à dire un carnet, vraiment un carnet de pratique vocale, un papier, un crayon, et noter précieusement son chemin, ses explorations, ses découvertes. En fait, c'est le voyage qui est le plus intéressant, bien plus que finalement le résultat. Le résultat est important, hein, mais c'est à travers le voyage, quelque part, qu'on apprend le plus, et de prendre le temps de noter ce qu'on fait, comment on pratique, ce qui marche bien pour nous, nos envies, etc. Je trouve que c'est ce qui emmène peut-être le plus de progression et de prise de conscience de cette progression.
Oui.
Oui, ça peut aussi aller avec l'idée de s'enregistrer régulièrement. Alors pour certaines personnes, s'enregistrer, ça peut être un petit peu compliqué au début, mais franchement, je vous invite à beaucoup le faire. J'invite les profs et les chanteurs à beaucoup s'enregistrer et beaucoup se réécouter. Et se réécouter comme si c'était une autre personne avec qui on a envie d'être bienveillant, attentif, pour pas être trop critique avec soi-même. Et puis d'avoir vraiment dans son carnet de notes, à côté de son carnet de notes, ses enregistrements. Moi, j'utilise une appli dans le téléphone où je note vraiment mon parcours vocal et puis aussi toutes mes explorations. Alors, je ne sais pas combien j'ai de notes audio, mais des milliers très certainement. Et j'adore retourner 3-4 ans en arrière et me dire, tiens, bah, j'avais exploré ça à l'époque. Tiens, ça donnait quoi? Oh, mais c'est génial. Tiens, et si je le refaisais? Oh, bah, depuis, j'ai progressé. Oh, bah, depuis, j'ai découvert ça et ça. Ah, mais ça, c'était un super chemin. Je l'avais oublié, etc., etc. Donc, je pense que je dirais un carnet et un crayon et un enregistreur.
D'excellents conseils. Tu as fait un Master 1 en musicologie, option didactique et pédagogie de la musique. Le thème était une autre technique vocale, le belting. Tu as suivi plusieurs masterclass sur le belting. Alors, si tu étais un moyen, une proposition pour mettre en place le belting, que serais-tu ?
Le belting, c'est fascinant, c'est merveilleux, c'est génial, c'est l'accès à la liberté vocale, je dirais. C'est pas si compliqué que ça, en fait, le belting, quand on trouve le bon chemin. Et je dirais qu'il faut passer par des jeux, des explorations. Ouais, des jeux, je dirais, de s'amuser, d'imiter des, pourquoi pas, des bruits d'animaux, de trouver du sens, de jouer avec cet élément-là pour que spontanément, la voix puisse être plus aiguë, plus puissante, le tout connecté à des bonnes sensations corporelles pour pas forcer, pour pas se faire mal, pour être en conscience du geste, mais surtout passer par du jeu et ne pas chercher la technique avant l'exploration.
Oui. Si tu étais un exercice axé sur la langue.
La langue, notre chère amie la langue, qui participe toujours bien plus que nécessaire. La bouger, la mobiliser. Faire des jeux, aller explorer l'intérieur de sa bouche dans toutes les dimensions, aller voir comment c'est dedans pour la tordre très gentiment dans tous les sens. Et pourquoi pas, sous la douche, la masser, la toucher, prendre en contact avec elle. Ça fait bizarre, hein, au début, quand on le fait, c'est assez étrange, mais c'est absolument génial. Et elle adore être massée, au final.
Oui, moi j'ai le petit, je sais pas comment ça s'appelle, c'est ayurvédique, c'est un petit objet en cuivre pour nettoyer la langue.
Ah, alors je connais pas le petit objet en cuivre, mais par contre, les gratte-langues, ça fait bien le job aussi. Et franchement, c'est agréable, donc à la fois de la mobiliser, et puis de pourquoi pas la toucher. On l'a jamais touché, hein. La plupart d'entre nous, on n'a jamais touché notre langue. Et c'est assez étrange au début, il faut bien le dire, hein. C'est surprenant quand même de la toucher. Mais en fait, dès qu'on touche un endroit, d'un point de vue proprioceptif, cet endroit va être beaucoup plus facilement réinvesti, beaucoup plus conscientisé. Donc voilà, toujours la même chose un petit peu, hein, la mobilité et la prise de contact, la prise de conscience.
En parlant de prise de conscience, si tu étais un moyen d'atteindre un état méditatif ou de pleine conscience, lequel serais-tu ?
Bon, on peut passer par la respiration très clairement. En tout cas, au départ, quand on est un peu stressé, de faire attention à sa respiration, etc., ça peut ne pas toujours déclencher cet état-là, au début en tout cas, hein, parce qu'après, c'est absolument génial. Moi, il y a un petit exo de concentration que j'aime bien, que je fais pour moi, que je fais faire à mon fils régulièrement, c'est de fermer les yeux, de s'imaginer un 8, ou le signe de l'infini devant les yeux, un 8 un peu aplati, de s'imaginer sur ce 8 qu'il y a un point lumineux. Alors déjà, à ce stade, on peut regarder de quelle couleur il est le 8, s'il est à plat, s'il est en trois dimensions, si il y a un fond à ce 8. Et puis ce petit point lumineux, comment il est ce petit point lumineux ? Et de faire se promener le petit point lumineux sur le 8. Lentement, on peut le faire dans un sens et dans l'autre sens. Voilà, c'est un exercice plus d'attention et de concentration, mais je trouve que ça pose et que ça nous permet vraiment de se mettre dans un état d'être pleinement là, tout de suite, là maintenant.
Si tu étais un exercice pour la mâchoire.
Bah pareil, la mâchoire, je vais dire mobilité et prise de conscience, hein. Donc de la bouger, cette mâchoire, en douceur et en délicatesse, soit en la touchant, en mettant les doigts, par exemple, devant l'oreille, là, devant le tragus de l'oreille, pour voir, pour prendre conscience corporellement de comment elle bouge, donc l'ouvrir lentement. Est-ce qu'elle s'ouvre progressivement, est-ce qu'il y a des à-coups, est-ce qu'elle va plutôt à gauche, plutôt à droite, comment ça se passe? Simplement écouter ça. Et puis aussi, on peut se mettre devant un miroir et regarder devant un miroir comment elle s'ouvre. On prend conscience de plein de choses, en fait. On s'aperçoit qu'en fait, ben, on s'observe assez peu au quotidien. et que cette simple observation permet, on dit en thérapie manuelle, de normaliser le geste. Ça permet de réajuster, que le cerveau trouve des chemins tout seul, sans qu'on ait besoin de plus intervenir que ça, de réajuster le geste.
Tu as suivi un stage avec David Perron, si tu étais une technique sur la voix saturée.
Pour la petite anecdote, moi j'ai beaucoup chanté de gros rock un peu quand même. Je viens des musiques un peu sonores, on va dire. Et j'adore ça encore maintenant, une grosse guitare saturée me fait beaucoup d'effet. Et pendant longtemps, on m'a dit, bah, écoute, t'as plutôt une petite voix. Maintenant, je sais que c'est pas vrai, mais à l'époque, on me le disait. T'as plutôt une petite voix, les saturations vocales, attention, c'est dangereux, il faut pas y aller. Donc, je me suis interdit d'y aller pendant des années. Frustration, hein, quand on veut chanter, en plus, des choses un peu rock. Et en fait, d'abord, les saturations vocales, ça peut être fait totalement sainement. Alors si j'étais une exploration, pour ne pas reciter la prise de conscience, regarder simplement, dans la journée, en fait on sature plein de fois dans la vraie vie. Donc prendre conscience qu'on sature dans la vraie vie, prendre le dictaphone qui est à côté, enregistrer cette petite saturation qui est arrivée inopinément et qu'on sait déjà faire, et puis simplement essayer de la retrouver le lendemain ou le surlendemain grâce à l'enregistrement. Donc si je ne citais pas ces différentes manières d'accéder aux saturations, je dirais de passer par le fry et de mettre de la résonance sur le fry. C'est une saturation très douce, très délicate, qui a l'avantage de pouvoir être pratiquée en échauffement, en récupération vocale, et qui emmène vraiment des saturations super ludiques et à la fois douces, mais vraiment, vraiment, vraiment très utilisables pendant le chant.
Si tu étais un exercice pour travailler le passage?
Ah, pour travailler le passage, pour le gommer ou pour l'amplifier? Ou pour simplement le laisser exister?
Comme tu veux. Alors souvent, c'est plutôt le gommer. Enfin, moi qui viens du lyrique, à la base, c'était plutôt pour gommer, mais vraiment ce qui te vient.
Mais oui, c'est marrant, parce qu'effectivement, en lyrique et dans pas mal de musique, on veut quand même le gommer. Alors qu'en fait, il est super intéressant de le laisser s'épanouir. C'est souvent en l'apprivoisant et non pas en essayant de l'éviter, qu'on trouve des stratégies. Alors, curieusement, s'il existe pas chez les chanteurs et qu'ils veulent pas le développer, ben très bien, c'est parfait. Mais s'il existe et qu'on veut le gommer, je dirais dans un premier temps de s'amuser avec, de regarder où il est, sur quelle voyelle, est-ce qu'il est au même endroit, est-ce qu'il est plutôt haut quand on monte et bas quand on descend, ou inversement, est-ce qu'on sent quand il arrive, comment on sent quand il arrive. Voilà, je ferai d'abord vraiment une prise de conscience de comment il est. Je ferai copain-copain, en fait, avec lui. Et ensuite, une fois qu'on a fait copain-copain avec lui et qu'on a identifié comment il arrive, eh ben, subtilement, gentiment, délicatement, puisqu'on sait quand il arrive, on va trouver des stratégies personnalisées à chacun pour qu'il arrive moins. Clairement, il y a plusieurs choses. La stabilité au niveau du larynx, l'adaptation résonancielle, de modifier très légèrement la forme des résonateurs pour s'ajuster au passage. Et puis bien entendu, la résonance, mettre de la résonance et trouver de la résonance à la fois en mécanisme 1 et en mécanisme 2 pour pouvoir faire en sorte que le timbre soit pour ainsi dire le même en mécanisme 1 et mécanisme 2. Et du coup, même si le passage existe toujours dessous, on ne le perçoit plus, on ne l'entend plus.
Si tu étais un moyen d'aborder l'interprétation?
Déjà, je préciserais qu'interprétation et technique vocale, pour moi, sont totalement complémentaires et qu'on peut, par exemple, vouloir accéder plus facilement à l'aigu et partir sur un jeu d'interprétation et inversement, vouloir travailler l'interprétation et partir sur des bubules, par exemple, pour équilibrer le geste vocal, pour se sentir plus libre dans l'interprétation. Voilà, les deux, pour moi, sont corrélés et s'interconnectent constamment. Ensuite, si j'étais un jeu d'interprétation, ça va vraiment dépendre des personnes, dépendre comment on se sent à l'aise avec une certaine forme de lâcher prise, de jeu. Mais encore une fois, ce serait vraiment passer par le jeu, passer peut-être par des personnages, peut-être se demander qui chante là le morceau, la chanson. Oui, ok, bon, c'est toi qui chante la chanson, on est d'accord. Mais c'est toi là maintenant ou c'est toi avant, c'est toi plus tard ou c'est une partie de toi? Et est-ce que peut-être ce serait pas un personnage? Et si c'est un personnage, quel personnage ça pourrait être? Un personnage auquel tu pourrais t'identifier pour ce morceau? Il est très intéressant en général dans l'interprétation d'aller visiter différentes possibilités de qui chante. Donc ce serait peut-être une des premières pistes. Mais honnêtement, il y en a plein sur l'interprétation. D'ailleurs, c'est génial, hein. Tout ce qu'on peut faire, on peut jouer, on peut ne jamais s'arrêter de jouer avec l'interprétation.
Oui, en plus, toi, tu as aussi joué au théâtre?
Oui, tout à fait.
Si tu as d'autres idées pour l'interprétation, n'hésite pas à développer, parce que celle-ci était déjà extrêmement intéressante.
Oui, il y a plein de possibilités. Alors, moi, j'ai aussi une tendance à passer par le corps, hein, forcément. C'est-à-dire que avant même de chanter, physiquement, vivre ce qu'on est en train de chanter. Bien entendu, on peut s'appuyer sur les paroles, mais on peut aussi créer des sous-textes. C'est-à-dire que on peut dire « je t'aime » ou on peut dire « hé, je t'aime ». Ça ne veut pas du tout dire la même chose. Donc les paroles, on peut leur faire prendre des sens totalement différents. Et avant même de le faire passer dans la voix, j'aime souvent proposer de le faire passer dans le corps. Comment on le dirait physiquement? Comment le corps est impliqué dans ce qu'on va raconter? Donc voilà, c'est d'autres pistes pour l'interprétation, mais il y en a tellement, tellement que c'est sans fin. Et j'aime aussi utiliser des jeux. Je joue en beaucoup et j'ai plein de jeux, de vrais jeux, hein, des jeux de cartes, des dés, tout un tas de choses. Et effectivement, j'aime bien jouer, notamment quand on est en groupe, par exemple, sur des intentions, sur des émotions, et faire tirer des cartes, jeter des dés, faire deviner aux autres ce qu'on fait. Enfin, passer par le jeu pour que l'interprétation redevienne ludique et sensible et qu'on n'essaye pas de bien faire. Voilà. Parce qu'il y a mille et une manières de bien faire.
Tu as une formation de formatrice en pratique de la voix dans les musiques actuelles, si tu étais un moyen, une approche d'utiliser la voix dans les musiques actuelles.
Ben, il y a tellement, tellement de manières d'utiliser de la voix dans les musiques actuelles. Oh, alors, je vais dire un truc. Je sais pas si je peux. Alors ça va rejoindre l'interprétation, le lâcher prise et les jeux bizarres et étonnants. Par exemple, quand j'ai eu à travailler avec des chanteurs lyriques, je l'ai beaucoup fait, hein, accompagner des chanteurs lyriques qui voulaient passer du chant lyrique aux musiques actuelles, je l'ai énormément fait. Et quand je sentais que d'un point de vue lâcher prise, c'était faisable, je proposais, attention, je propose toujours d'ailleurs, j'adore, de chanter moche. Je n'ai pas dit que les musiques actuelles c'était moche, hein. Pas du tout, hein. Mais cette idée de ne pas chercher le beau nous permet d'aller trouver des effets vocaux, de la résonance, qui peuvent être exploités, notamment en musiques actuelles. Et cette prise de conscience de « Eh, mais j'ai pas besoin de chanter beau, en fait. Il vaut mieux que je chante vrai. » Alors, je passe par le moche pour trouver le chanter vrai. Ça m'arrive, je le propose pas à tout le monde, parce que faut quand même avoir envie de chanter moche, mais si on accepte ce jeu-là, c'est incroyable tout ce qu'on découvre. Et après, on peut s'enregistrer et réexploiter ce qu'on a entendu sans forcément passer par le chanter moche en disant « mais tiens, là, ce petit fry à cet endroit-là, c'est super. Et cette petite cassure là dans la voix, en fait, c'est un petit yodel et c'est super intéressant, ça. J'ai déjà entendu la chanteuse des Cranberries ou Alanis Morissette le chanter, mais j'adore. » Et en fait, à travers le chanter moche, on peut découvrir plein de facettes de sa voix, et souvent, tout le temps même, c'est tout sauf moche en fait, de chanter moche.
On dépose le fardeau de faire beau en fait, hein, donc c'est libérateur.
C'est complètement libérateur, et en plus techniquement c'est là que interprétation, technique évidemment, ça s'interconnecte, parce que en technique ça nous fait découvrir tout un tas de choses exploitables, et puis pour le lâcher prise et la préparation mentale, c'est absolument merveilleux.
Si tu étais une approche pour traiter les problèmes de déduction.
Ben, je reprendrai ce que j'ai dit tout à l'heure. La première chose à faire, c'est pas forcément d'essayer de replacer la mâchoire droite et d'essayer de bien faire, de bien ouvrir droit, etc. Mais de sentir, en fait, où ça part, à quel moment, quand, et de s'amuser à écouter ça. Et il y a un truc qui marche assez bien, c'est d'accentuer ce geste. C'est-à-dire, c'est vraiment très étrange. Ben non, en fait, parce que le corps, il l'a intégré comme étant une normalité. C'est-à-dire que t'es habitué à ouvrir la mâchoire plus à gauche qu'à droite, et c'est devenu la normalité, puisque tu le fais 153 fois par jour. Donc, de dire au corps, je vais ouvrir plus à gauche, c'est lui faire prendre conscience de ça se passe comment quand c'est ouvert à gauche. Et du coup, en général, simplement en exagérant cette ouverture à gauche, faut pas que ça fasse mal, bien entendu, hein, faut le faire avec beaucoup de douceur et de délicatesse. Quand derrière, on essaye de réouvrir normalement, mais on s'aperçoit que ça part un peu moins à gauche, dis donc. En fait, on explore déjà la manière qu'on a de faire pour que peut-être le corps, en prenant conscience, trouve un autre chemin. Donc ça peut être une stratégie. Et puis après, si c'est lié à des tensions musculaires notamment, on a pas mal de massages ou d'auto-massages ou d'auto-thérapie manuelle qui marche très très bien pour relâcher la mâchoire. J'en profite pour dire que quand on a comme ça une mâchoire qui se dévie un petit peu, on peut faire attention aussi à tout ce qui est occlusion dentaire. De vérifier comment se touchent nos dents, de vérifier si on mâche autant à gauche qu'à droite, parce que souvent, ça peut être lié en tout cas à des soucis dentaires.
Tu es diplômée en psychologie. Si tu étais un outil pour développer la psychologie positive au service des chanteurs et des chanteuses.
Dans le petit carnet de bord vocal là, qu'on a maintenant tous avec nous tout le temps, dans le téléphone ou dans le sac, je ferais une double page où je mettrais à gauche les qualités vocales, à droite les points à améliorer. Il faudrait que la page de gauche ait deux fois plus d'items que la page de droite. En gros, être pleinement conscient des qualités vocales qu'on a déjà et pouvoir les exploiter. On veut toujours améliorer plein de choses dans sa voix, et c'est tout à fait naturel, hein, moi la première. Mais on oublie parfois de s'appuyer sur ses forces. Et c'est très important, et c'est valable aussi pour la préparation mentale. Si on est conscient de ses forces, ben les choses nous toucheront beaucoup moins et on acceptera beaucoup plus facilement la critique quand elle est positive, et c'est très important de pouvoir accepter une critique positive, parce que c'est aussi ce qui va nous faire avancer. Donc voilà, je dirais être bien conscient et pleinement conscient de toutes ses forces et alimenter cette page de jour en jour.
Tu as suivi des stages Estil Voice. Si tu étais une approche ou un exercice issu de la méthode Estil.
Alors pareil, je ne vais plus être très consciente, je crois, de ce qui appartient à Estil ou ce qui n'appartient pas à Estil, parce que j'ai une tendance à mélanger les différentes méthodes pour justement créer des approches et non plus des méthodes. Du coup, chez Estil, alors pour le coup, je l'ai réinterprété, mais le pleur, cry. Moi, je parle de chouin-chouin. Clairement, ça a certainement été inspiré par Estil.
Oui, ils appellent ça le sob.
Le sob, moi je chouine. Alors j'utilise pas le terme pleurer, parce que pleurer, ça peut vouloir dire sangloter aussi. Et en tout cas, chez certaines personnes, ça peut-être crisper. Donc j'utilise pas le terme pleurer, mais j'utilise le terme chouiner. Et chouiner comme une petite bête. Hein, vraiment. Mais tu vois ce genre de tout petit son là, pour l'accès à l'aigu. Mm-hmm. Ça, je l'utilise vraiment beaucoup. Donc... Voilà, je pense que c'est inspiré des styles, très clairement.
Si tu étais un livre sur le chant ou la technique vocale?
Alors, un livre, il y en a plein de très intéressants. Je citerai quand même celui d'Elisabeth Fonta, qui est sorti, je crois, l'an dernier. Connaître sa voix pour mieux la préserver. Parce que c'est un livre à la fois très pointu, très précis, écrit par une super phoniatre, hyper à l'écoute, enfin... une professionnelle comme on les aime, si je peux dire ça comme ça. Et en même temps, c'est très accessible pour tous ceux qui ont envie de découvrir la voix. Donc voilà, j'aurais envie de citer celui-là, surtout que c'est un des derniers que j'ai parcouru en long, en large et en travers, et que je propose en bibliographie aux profs qui suivent la formation prof.
Elisabeth Perry-Fonta, que je salue au passage puisqu'elle fait partie, c'est l'une des fondatrices de la Maison de la Voix. Tu as continué de te former auprès de phoniatres comme Elisabeth Perry-Fonta et le docteur Bianco. Si tu étais un enseignement reçu issu de la phoniatrie?
Je vais dire quand même la physiologie. Enfin, je ne sais pas si c'est issu de la phoniatrie, mais en tout cas, c'est évidemment absolument indispensable pour un phoniatre. Et je trouve que quand on connaît bien la physiologie, quand on comprend comment le geste vocal fonctionne, on peut encore mieux adapter sa pédagogie. On peut aussi ne pas utiliser des métaphores qui pourraient être potentiellement dangereuses pour la voix, parce que ne correspondent pas tant que ça à la physiologie. En tout cas, ça permet d'avoir un ancrage scientifique dans la pratique pédagogique.
Si tu étais un exercice, un conseil pour la justesse, pour le manque de précision dans le chant?
Alors, ça va dépendre quelle est la cause de ce déficit de justesse, s'il est moteur ou perceptif ou lié à la mémorisation. Donc pareil, là, il faudrait vraiment faire des tests et puis s'adapter à chacun en face. Mais un conseil que je donne assez régulièrement, j'en avais déjà fait une vidéo YouTube, c'est d'entendre ce qu'on va chanter, d'entendre. Si on prend Au clair de la lune, ma chanson préférée pour s'entraîner, de fermer les yeux et d'entendre les notes d'Au clair de la lune, de voir éventuellement quelles évocations ça engendre. Est-ce que je vois quelque chose quand je ferme les yeux et que j'entends Au clair de la lune? Est-ce que je vois quand ça monte, quand ça descend? Et puis pourquoi pas de même l'entendre avec différents timbres? L'entendre comme si c'était un piano qui le jouait, l'entendre comme si c'était un violon, l'entendre si on le chantait, l'entendre avec différents timbres de voix, de vraiment développer cette perception intérieure d'entendre ce qu'on va chanter. Voilà, je crois que ça affine vraiment la justesse et ça rejoint un petit peu la préparation mentale, la concentration. Voilà, c'est assez global, mais je pense que c'est un super exo, une super exploration à faire.
Si tu étais une technique issue de la rééducation posturale de la méthode Maizière, laquelle serais-tu ?
Je parlerais d'ancrage en général, c'est-à-dire de stimuler, si on peut dire, les muscles profonds pour que les muscles superficiels soient plus détendus. Alors, détendu, c'est pas le très bon terme, mais en tout cas qu'on ait des possibilités de mouvement facilitées et de stimuler les muscles qui sont dédiés à la posture, donc les muscles posturaux. Par exemple, en faisant des jeux, en jouant à tenir sur une jambe, en jouant à tenir sur un coussin d'équilibre, en imaginant repousser le sol, voilà, tous les jeux d'ancrage. Alors, est-ce que c'est spécifique à la méthode Maizière? Encore une fois, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un vrai lien à la posture. Et de dire aussi qu'il n'y a pas une bonne posture, mais il y a la posture la mieux adaptée à chacun par rapport à ce qu'on a envie de faire. Ça aussi, c'est important. Il faut pas forcément se tenir plus droit, plus comme ci, plus comme ça, mais de juste stimuler les fonctions motrices adaptées en fonction de ce qu'on veut faire.
La méthode Maizière qu'on m'avait fait faire un peu en lien avec le chant, c'était beaucoup axé sur la respiration avec des mouvements.
Oui, c'est vrai.
C'était pas mal ça.
C'est vrai que libérer la respiration, je parle bien de libérer la respiration et pas forcément de vouloir respirer comme ci ou comme ça, mais libérer la respiration, c'est vraiment un élément très très important pour les chanteurs, c'est certain. Et c'est lié à la posture, hein. Les deux sont très liés.
Toi-même, tu as expérimenté plusieurs ateliers de jazz vocal. Si tu étais un moyen d'improviser...
Un moyen d'improviser, imiter des instruments, je dirais. Considérer la voix comme un instrument et puis s'amuser à imiter différents instruments, comment elle ferait la contrebasse, comment elle ferait la trompette. Bon, j'aime bien, je trouve que c'est plutôt efficace. Je partirai encore une fois sur des jeux, en fait, hein. Toujours sur le jeu, je crois. Ça va être le leitmotiv un peu.
Oui, pour les autres instruments, on dit jouer, hein, jouer du piano, jouer. Alors, c'est vrai que pour le chant, on le dit pas forcément, mais oui, jouer de sa voix.
Ouais, je le dis régulièrement, vraiment, jouer de sa voix. Tout à fait.
Et donc, si tu étais un moyen d'aborder un standard de jazz?
Ça dépend, côté interprétation ou côté improvisation?
Comme tu préfères.
Alors déjà, je conseillerais d'écouter plein de versions diverses et variées. Et grâce à YouTube et à tout ce qu'on peut trouver sur Internet, on peut vraiment aller explorer plein de choses et pas se contenter d'une interprétation ou d'une autre pour nourrir, en fait, hein, nourrir sa culture musicale. Et ça marche relativement bien. Après, si c'est pour aller vers l'improvisation, alors moi, je suis pas une spécialiste de l'improvisation, du scat notamment. J'adore improviser. J'adore faire des jeux d'improvisation, mais je pratique le scat pour le fun et le plaisir. Par contre, quelque chose que je ferais sur un standard de jazz ou même sur une chanson, ou peu importe, c'est d'entendre le mode ou la gamme qui peut aller sur ce morceau et d'entendre quand on doit changer de note et donc de monter, de faire tourner le morceau et de chercher à monter une gamme, à descendre une gamme, à changer une gamme, à jouer comme ça vraiment avec les différentes notes qui pourraient être chantées sur le morceau ou sur le standard. Pour développer l'oreille, pour développer la liberté aussi. Et puis comme ça, si on chante un truc, on sait jamais, un tout petit peu à côté, on a beaucoup plus de facilité à, hop, à un demi-ton près, se retrouver pile poil au bon endroit. Et voilà, ça ouvre les possibilités et du coup, ça engendre beaucoup plus de liberté, je dirais.
Si tu étais une partie du corps à solliciter ou sur laquelle prêter son attention pendant le chant ou avant le chant?
Ça va vraiment être différent selon les personnes. Et je dirais surtout d'alléger globalement, de regarder quand on chante ce qui peut être superflu. ce dont on n'a pas besoin, et de garder l'essentiel. Alors peut-être qu'il va falloir rajouter un peu de tonicité de ci, de là, mais souvent, on peut alléger tout ça. On peut prendre moins d'air, on peut contracter moins à tel ou tel endroit, serrer moins la mâchoire, voilà, on peut économiser. Et j'aurais tendance à essayer de trouver, oui, cette économie de mouvement, cette tonicité nécessaire, ni trop, ni pas assez, bien entendu.
Tu as suivi une formation Ostéovox. Si tu étais une proposition de cette thérapie manuelle appliquée à la sphère orofaciale, laquelle serais-tu ?
Alors, je faisais déjà de la thérapie manuelle avant de suivre la formation Ostéovox depuis quelques temps et je m'étais déjà spécialisée dans la rééducation auprès de chanteurs. Donc pareil, je vais essayer de... Je suis pas tout à fait sûre que ça appartienne directement à Ostéovox. J'ai adoré, hein, j'ai adoré faire Ostéovox et j'ai adoré travailler avec Jean-Blaise Rock notamment, qui a été un mentor, pour ainsi dire, une grande source d'inspiration. Je dirais tout ce qui va être libération de la nuque et notamment de la charnière entre occiput et colonne cervicale qu'on appelle OA, occiput atlas axis. Et de vraiment trouver, soit en thérapie manuelle, soit par des petits mouvements ou en autothérapie manuelle, comment libérer cette zone. Parce qu'en libérant cette zone, on libère la mâchoire et on permet aussi d'avoir une mobilité, des cavités de résonance plus fluides, plus simples, plus légères. Donc voilà, je retiendrai peut-être tout ce qui est lié à OA. Il y a une exploration en thérapie manuelle, un truc, si vous n'avez pas vu un ostéo qui vous l'ait déjà fait, mais faites-le, c'est absolument génial, où vraiment on tire très délicatement, très 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 délicatement sur la nuque, comme un, ouais, c'est pas vraiment un étirement, mais une décoaptation très légère, et puis on fait des tout petits mouvements, on se fait faire des tout petits mouvements de la nuque, et ça engendre un bien-être, on s'endort instantanément, enfin c'est absolument merveilleux. Moi, comme thérapeute manuelle, j'adorais hypnotiser cette zone et hypnotiser le larynx. C'est-à-dire que j'aime accompagner les mouvements du larynx sur la respiration, mobiliser très doucement, très délicatement le larynx. Et vraiment, le larynx est comme hypnotisé et assez régulièrement, la personne s'endort. C'est assez marrant, enfin c'est assez étonnant parce que c'est une zone, en général, dès qu'on vient s'approcher, on met les mains dessus, ça engendre plutôt de petites réticences ou là, qu'est-ce qu'on va faire à cette zone? En tout cas, une vigilance. Et puis, en fait, quand on arrive à hypnotiser cette zone, à accompagner vraiment les mouvements, eh ben, ça devient tout souple, tout fluide et la personne peut même s'endormir.
Si tu étais une vocalise,
figure-toi que je ne fais pas faire beaucoup de vocalises. Donc ma vocalise préférée, ce serait de prendre un morceau qu'on aime bien, de prendre une phrase ou un paragraphe, un couplet, d'enlever les paroles, de rajouter des sons qui nous font du bien, dont on sait qu'ils sont confortables pour notre voix et qu'ils nous mettent en voix, et de s'en servir comme d'une vocalise, et pourquoi pas de monter cette phrase ou ce couplet, demi-ton par demi-ton.
Si tu étais un exercice pour travailler le grave ?
C'est souvent plus compliqué, entre guillemets, hein, compliqué parce que on peut y aller, mais c'est souvent plus compliqué d'aller explorer le grave que d'aller explorer les aigus contre toute attente. Les aigus, on a vraiment des outils assez pertinents pour permettre aux cordes vocales de vibrer plus vite. Bon, les graves, on a une limite physiologique déjà. Et ensuite, ça peut être très fatigant aussi les graves contre toute attente ou contre ce qu'on pourrait penser spontanément. Il y a plein d'outils, hein, bien entendu, pour aller explorer le grave. Si je dois en choisir un, là maintenant, tout de suite, je passerai par le fry. Je ferai des alternances fry, son grave, sur les différentes voyelles.
Donc tu parlais des aigus. Si tu étais un conseil pour accéder aux aigus sans serrer la gorge?
Alléger en montant, je dirais. L'aigu, c'est pas si compliqué. Donc pareil, on pourrait passer par le fry, on pourrait chouiner aussi. Faire des alternances fry, chouin, chouin. Alors je parle d'un fry ouvert, je transforme en M. Puis je le monte sur un petit chouin-chouin, donc ça, voilà, ça pourrait être ça. Et puis, penser qu'on allège. En fait, on a tendance à penser qu'il faut en mettre plus. Plus on va en haut, plus il faut en mettre. Et penser corporellement qu'on allège. La prise de conscience d'alléger, donc de regarder ce qui aurait tendance à se crisper, à se tendre en montant vers l'aigu et d'essayer d'alléger. Donc, on rejoint tout à l'heure ce que je disais sur les exocorporels et trouver l'accordage résonantiel. Une fois qu'on a ces différents paramètres en place, ça paraît simple comme ça, ça prend un peu de temps et il faut trouver les exos ciblés. Mais une fois qu'on a ces paramètres en place, l'aigu, hors souci vocal ou pathologie, hein, est pas très compliqué finalement. On ne peut pas donner d'exercices généraux puisqu'on a tous besoin de choses différentes. Et c'est tout l'intérêt d'ailleurs de la pédagogie vocale. Mais on pourrait dire que souvent, pas tout le temps, mais souvent, on prend beaucoup plus d'air que nécessaire pour l'aigu. Donc, de prendre conscience de quelle quantité d'air j'ai réellement besoin pour faire cette note. Est-ce que j'ai besoin de me remplir beaucoup? Ou au contraire, prendre pas trop d'air, juste ce qui est nécessaire. Encore une fois, ni trop, ni pas assez. Et de tester comme ça avec quelle quantité d'air, finalement, c'est plus facile de faire le son aigu.
Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui mettent trop de pression et trop d'air dans l'aigu. Et c'est problématique.
Complètement, oui. C'est fréquent, hein, c'est fréquent. Et c'est instinctif. On a l'impression que ça va être plus difficile d'y aller. Donc on se prépare physiquement. Donc on prend plus d'air. On se tonifie un peu, là, pour se préparer comme ça à aller vers cet aigu. Et en plus, comme l'aigu fait un peu peur, ça peut déclencher en plus un petit serrage au niveau laryngé. Parce que la peur et le serrage laryngé sont liés. C'est assez logique et c'est totalement naturel de spontanément avoir envie d'y aller comme ça. Mais en prenant conscience, on peut trouver d'autres chemins.
Si tu étais un exercice de voix mixte.
Ajuster le moule des voyelles peut-être. On n'a pas exactement la même position quand on fait un I grave et un I aigu. Et de progressivement ajuster les cavités de résonance pour que cette voyelle reste cette voyelle. En général, ça peut permettre à la voix mixte de se trouver plus facilement. Voilà. Ça pourrait être aussi la stabilité au niveau du larynx. Mais il faut que cette stabilité, elle se fasse en détente. Et pas qu'on garde le larynx dans la même position pour que ça passe pas, mais que ça crispe. Donc encore une fois, on en revient à alléger, sentir comment ça se passe et puis adapter les explorations à chacun.
Si tu étais un moyen de mémoriser les chansons ou les textes, hein, puisque tu as aussi joué des pièces au théâtre, quel moyen serais-tu ?
Il y a plein de techniques de mémorisation. J'adore les techniques de mémorisation. Effectivement, hein, si on essaye juste de répéter et de lire les paroles en boucle, ça marche pas très bien. Puis il faut savoir qu'en situation de stress, on risque de les perdre. Donc, voilà. Déjà de les apprendre en les coupant de la mélodie et puis après en les liant à la mélodie. En tout cas, d'avoir les deux possibilités. Parce que si on change de mélodie pour une raison ou une autre, je ne sais pas, moi, on n'a pas joué le bon accord au piano et que du coup, on a ajusté la mélodie. Des fois, quand la mélodie est très liée aux paroles, on a du mal à séparer les deux. Donc séparer les deux pour pouvoir les ajuster, séparer la mélodie d'un côté et les paroles de l'autre et bien entendu pouvoir faire les deux ensemble. Puis après, des techniques de mémorisation pure. Moi, je sais que j'utilise pas mal des moyens mnémotechniques pour apprendre, par exemple, de prendre toutes les premières lettres de chaque phrase et de créer un petit mot ou une petite aide mnémotechnique avec. Du coup, je vais avoir cette image mentale ou ce petit mot qui va être ma référence et ça va m'aider à mémoriser plus vite. Après, un des secrets de la mémorisation en général, c'est les répétitions espacées, c'est-à-dire de faire souvent et pas longtemps, et de se tester, c'est-à-dire de se dire tiens, je me rappelle de quoi, sans lire avant, de dire ok, je me rappelle de quoi, et d'essayer de se rappeler un maximum, même si on l'a écouté qu'une fois, peu importe, ok, je me rappelle de quoi, et de voir ce dont on se rappelle, et ensuite, bien entendu, de le lire et d'essayer de le retenir, et puis 3 heures plus tard de dire tiens, je me rappelle de quoi, et que de faire comme ça de la répétition espacée, ça semble vraiment apporter de très 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 bons résultats. Donc en gros, faut pas apprendre au dernier moment, quoi. Je dis ça, mais bon, ça m'est arrivé plein de fois.
Pour quelle raison ?
Pourquoi j'ai appris les paroles au dernier moment ?
Oui. Est-ce que c'était des choses qui sont tombées un peu à la dernière minute ou justement parfois par peur, on retarde ?
Alors, il y a de ça, hein. Clairement, hein, une des premières raisons pour lesquelles on s'y met pas, c'est une forme de peur. Du coup, on procrastine parce que on n'a pas envie d'y penser. On n'a pas envie d'y penser parce que ça fait peur, voilà, tout simplement. Donc, la plupart du temps, quand on remet à plus tard, en tout cas, pas surtout, hein, mais sur certaines choses, c'est lié à une certaine forme de peur. Et puis des fois, oui, c'est parce que ça s'est fait au dernier moment, parce que j'ai remplacé des copines chanteuses au pied levé. Voilà, des fois, c'était juste un petit peu trop tard ou j'ai accepté de faire un concert justement pour remplacer. Et puis en fait, je donnais des cours toute la journée jusqu'à 18h. Et puis je pouvais pas faire mes petites répétitions espacées. Enfin, ça demande un petit peu d'organisation tout simplement et d'anticipation. Puis des fois dans la vraie vie, c'est pas toujours si évident que ça. Mais heureusement, les moyens mnémotechniques ou un petit palais mental à ce moment-là, ça peut nous sauver la vie.
Si tu étais un moyen, une proposition pour bien accoler les cordes vocales pour les personnes qui ont tendance à chanter avec pas mal d'air.
Je pense que je passerais en priorité par de la résonance. J'essaierais de voir, Ça dépend à quel point les cordes vocales sont pas accolées. Franchement, il y a plusieurs possibilités et encore une fois, ce serait différent selon les personnes en face. Mais je crois que je privilégierais d'aborder l'accolement des cordes vocales par de la résonance, de faire un petit son doux mais très très vibrant. Et pas. Parce qu'on sait que la résonance aide à l'accolement des cordes vocales, contribue, simplifie, on peut dire ça comme ça, l'accolement des cordes vocales.
Si tu étais un conseil que tu as donné dernièrement.
Un conseil que j'ai donné dernièrement à une chanteuse absolument merveilleuse, c'est de faire une pause de technique et de retrouver le plaisir. C'est un conseil qu'on m'a donné à moi il n'y a pas si longtemps et que j'ai redonné là dernièrement à une chanteuse avec qui j'ai la chance de bosser. Des fois, on s'enferme un peu à vouloir gagner tel ou tel point technique. Je dis pas que la technique vocale, c'est pas important, hein. Bien au contraire, c'est essentiel. Mais il faut retrouver le plaisir et le jeu et pas s'enfermer dans « je veux absolument avoir ça techniquement ou ça techniquement ». Et c'est marrant parce que ça lui a déclenché à peu près la même chose que ça m'a déclenché à moi il y a quelques mois, de juste chanter pour le plaisir de chanter et pas forcément pour travailler. C'est un équilibre entre les deux en fait, hein. Il y a deux types de pratiques, une pratique vraiment très très ciblée, très précise, qui est essentielle et importante, et puis il y a une pratique pour le fun, le plaisir, pour retrouver ce pourquoi on a commencé à chanter au départ, faut pas l'oublier.
Si tu étais une proposition, un exercice pour travailler l'agilité vocale.
Le yodel, passer rapidement d'un mécanisme à l'autre, sur la même voyelle, sur différentes voyelles, sur différentes hauteurs, s'amuser avec cette possibilité de passer d'un mécanisme à l'autre pour l'agilité vocale, c'est juste absolument génial.
Si tu étais un mécanisme, lequel serais-tu ? Le 0, le 1, le 2 ou le 3, lequel préfères-tu ?
Si vraiment je devais en choisir un, je choisirais le zéro. Le fry me permet de récupérer quand j'ai la voix un peu fatiguée, ce qui ne m'arrive presque pas. Mais j'ai eu une crève, un Covid-like au mois de décembre. Et vraiment, j'étais en présentiel. Alors, c'était pas le Covid, hein, c'est pour ça que je dis Covid-like. Et je devais assurer une formation. Et le fry, c'est juste fabuleux, quoi, parce que j'avais la voix moins fatiguée à la fin de la journée qu'au début de la journée. Donc j'en faisais toutes les heures 45 secondes. Et franchement, c'est top. Donc la récupération, moi je m'en sers pas mal en échauffement vocal, en rajoutant de la résonance, en faisant bouger ce fry qui n'est plus vraiment un fry d'ailleurs, hein, en le faisant aller vers les aigus et autres. J'adore le fry. Je crois que c'est peut-être un des jeux vocaux que j'utilise le plus ou que je fais le plus.
Si tu étais un remède pour la voix.
L'hydratation en général, hein, alors ce sera juste de l'eau chaude. Avec éventuellement du sel, à faire en inhalation ou mieux en nébulisation. Pareil, hein, l'hydratation des cordes vocales, ça aide à garder une voix en bonne santé. C'est simple à faire, ça coûte pas cher. Et franchement, ça peut changer la vie, changer la voix. Je sais qu'il y a pas mal de chanteurs à qui je l'ai conseillé, qui maintenant... là on est en période Covid, donc évidemment c'est un peu différent, mais quand ils partaient en tournée, quand il y avait la clim dans les avions ou dans le train, d'avoir un petit nébulisateur portable qui se recharge en USB et de pouvoir s'hydrater les cordes vocales régulièrement, ouais, c'est top.
Si tu étais une pratique complémentaire qui t'aide ou qui aide tes coachés.
Je leur dirais surtout de tester plein de choses, que ce soit du sport ou pourquoi pas de la méditation ou autre, mais surtout de trouver ce qui leur convient et ce qui leur fait du bien et ce qui semble leur apporter le maximum de choses pour la voix ou pour la vie d'ailleurs.
Si tu étais une innovation, un exercice ou une méthode que tu as créée.
Alors, c'est vrai que moi, j'aime créer, j'aime réinvestir. Alors, on réinvestit sur des choses déjà existantes, hein. C'est pour ça que je me forme beaucoup et que je cite mes sources. Mais j'aime recréer, co-créer, réinventer, peaufiner. Donc, il y a pas mal d'outils que je réinvente, que je réexplore, que je réutilise. Ce qui est assez marrant, c'est que des fois, je suis pas la seule à les réinventer. On est plusieurs à avoir réinventé. Des fois, j'ai discuté avec des copines, ortho notamment. On se montre nos outils préférés et puis on me dit « Ah, mais moi aussi, je fais ça ». Donc, c'est vraiment trop bien. J'ai développé pas mal d'outils d'autothérapie manuelle liés à la voix, ça c'est sûr. Inspiré, bien sûr, des thérapies manuelles qu'on pouvait faire en kiné. Mais vraiment,
vraiment spécifiques à la voix, avec, alors c'est pas vraiment un protocole, mais une manière de les pratiquer pour voir si c'est efficace sur la voix, ce que ça apporte. On chante avant, on fait une exploration, on porte attention sur une sensation, on voit ce que ça apporte, on réajuste, enfin voilà. C'est plus, je dirais, dans l'approche pédagogique finalement que dans les outils, même s'il y a clairement des outils que j'ai développés, que j'ai inventés, que je continue à inventer, c'est aussi dans la manière de les transmettre, je pense, que l'innovation est la plus intense.
D'ailleurs, est-ce que tu veux bien nous expliquer comment transmets-tu, comment se déroulent les formations que tu as créées ?
Ça fait longtemps que je donne des cours, hein, plus de 20 ans. Depuis 2008-2009, je fais vraiment de la formation professionnelle. Dans cette formation professionnelle, mon activité principale, c'est de former des profs de chant. Donc on a un centre de formation, maintenant je suis plus toute seule dans l'organisme de formation, on a un centre de formation qui s'appelle Chant Voix et Corps, et le gros de l'activité de ce centre de formation, c'est d'organiser des formations pour les professeurs de chant et de technique vocale. La première grosse formation, c'est-à-dire sur un parcours long pour les professeurs de chant, c'était en 2011-2012, il me semble. Avant, il y avait déjà des formations, mais plus courtes, sur 2 jours, sur 1 semaine. Et en 2016-2017, j'ai souhaité faire reconnaître cette formation. Et j'ai donc demandé une reconnaissance par l'État pour qu'à l'issue de la formation, les personnes qui ont suivi cette formation puissent obtenir un titre RNCP, un diplôme reconnu par l'État, qui est un bac plus 3-4, qui s'appelle professeur de chant et de technique vocale. Donc comment ça s'organise ? Ben, il y a plusieurs types de formations, il peut y avoir des formations courtes. J'ai organisé des formations en ligne et je vais en recréer de nouvelles. À ce moment-là, c'est des modules courts qui sont spécifiques sur des besoins. Ces formations en ligne ou ces formations courtes, elles sont à la fois ouvertes aux professeurs de chant, mais également aux chanteurs. Et puis après, il y a les formations plus longues. La plus courte des formations longues, elle dure 14 mois, donc c'est quand même un parcours assez intensif. Et là, ça s'adresse à des professeurs de chant qui débutent leur activité ou qui sont déjà en activité et qui souhaitent suivre la formation et éventuellement, à la fin, passer le diplôme de professeur de chant et de technique vocale. Alors, moi, j'aime bien avoir plein d'outils pédagogiques à disposition parce que chaque outil peut avoir ses avantages. Donc on est à la fois en présentiel, on est à la fois en visio, en classe virtuelle toutes les semaines, et à la fois il y a accès à de très nombreuses ressources sur une plateforme de e-learning. Et on monte à partir de février là des parcours au départ modulaires, mais en fait tout le monde veut, enfin la plupart des gens finalement qui s'y sont inscrits veulent suivre tous les modules. Donc ça se transforme en grosse formation, cette fois 100% en ligne, avec les challenges et l'innovation nous demande une formation 100% en ligne pour des profs de chant. Mais c'est enthousiasmant et maintenant on a suffisamment de recul et d'expérience pour savoir que ça fonctionne extrêmement bien. J'adore l'innovation en général hein, et du coup pour tout ce qui est pédagogie en ligne, ça demande de vrais gros ajustements mais c'est absolument merveilleux. J'avais créé une première formation en ligne en 2013-2014.
Ah oui, c'est vrai que ça a dû être un travail énorme, hein, aussi bien de création de la méthode pour la rendre accessible à tout le monde, mm-hmm. et aussi tout un travail technique, technologique.
Ouais, complètement. Après, c'est super enthousiasmant, hein. C'est trouver les manières les plus efficaces et qui puissent correspondre à tous les apprenants, à tous les profs qui sont en formation, pour qu'ils profitent un maximum de tous les contenus qui sont effectivement assez riches et assez intenses quand même, hein. Mais bon, toujours dans la joie et la bonne humeur, évidemment. On est une super communauté, la communauté des profs Chant Voix et Corps, on a une chance incroyable, il y a beaucoup d'entraide, c'est absolument génial, il y a beaucoup d'échanges, on apprend beaucoup avec et par les autres. Enfin, voilà, ça aussi, hein, dans les formations profs, c'est essentiel et central, c'est que c'est une pédagogie horizontale, on est tous profs de chant. Donc on peut tous s'apporter un maximum de choses, il y a beaucoup d'échanges sur les pratiques, beaucoup, oui, d'entraide. J'y tiens beaucoup et c'est ce qui rend aussi la formation, moi je la trouve super agréable en tant que formatrice et j'espère bien que les profs qui la suivent la trouvent super agréable aussi en tant que prof.
J'ai eu beaucoup de retours positifs et là d'ailleurs j'ai une cousine qui est chanteuse et qui aimerait donner des cours et elle m'a dit « Ah, je vais faire la formation d'Emmanuel Trinquès, j'ai cherché sur internet, ça a l'air très très bien ». J'ai dit « Ah oui
Ah, génial.
Je termine toujours avec la même question dans le podcast. Qui aimerais-tu écouter parmi les coachs, professeurs de chant, chercheurs ou chanteurs francophones ?
Emmanuelle Renoir, parce que c'est la présidente actuelle de l'Association française des professeurs de chant et c'est une de mes grandes amies. Et je pense qu'elle a plein de choses à raconter. Très intéressante et très pertinente, à la fois en tant que chanteuse, professeure de chant et puis aussi présidente de l'association.
Très bien, écoute, je vais la contacter et tous les liens pour ceux qui veulent suivre tes formations seront dans la description. Est-ce que tu as des actualités que tu voudrais annoncer ?
On va relancer des formations en ligne, plus courtes, incessamment sous peu, enfin dès que j'aurai finalisé la construction. Donc voilà, vous pouvez aller voir sur le site internet. Je mets pas mal de choses aussi, de contenu en ligne sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, le blog bien entendu. Et on a même un groupe qui s'appelle Chanvoix et Corps, restons connectés sur Facebook, où il y a plein de belles interactions. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, voilà.
J'étais ravie de découvrir toutes tes réponses et je pense que ça peut donner beaucoup de pistes aux chanteurs, aux professeurs de chant, aux orthophonistes qui écoutent.
Eh ben écoute, un très grand merci à toi. C'était un plaisir de pouvoir avoir cet échange avec toi aujourd'hui.
C'était un plaisir partagé. Un grand merci à toi. À bientôt.
À bientôt.
La clé de la voix, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous mercredi prochain pour découvrir les coulisses du podcast, les citations des invités. Retrouvez-moi sur Clémentine Coppolaine sur les différents réseaux sociaux. Comme toujours, les notes de l'épisode sont en description, ainsi que des exercices gratuits à télécharger. Le lien est en barre d'infos ou sur lacledelavoix.com/3superexercices pour apprendre à maîtriser sa voix. Merci d'avoir écouté La Clé de la Voix. Je vous souhaite une belle pratique vocale.